serez bien heureuse d'apprendre qu'aucun malheur n'a marqué le commencement d'une entreprise à propos de laquelle vous nourrissiez de funestes pressentiments. Je suis arrivé ici hier et mon premier soin est de rassurer ma sœur sur ma santé et de lui dire que je crois de plus en plus au succès de mon entreprise. Je suis déjà loin au nord de Londres. Quand je me promène dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens la brise froide du nord se jouer sur mon visage. Cela me fortifie et me remplit de joie. Comprenez-vous une telle sensation ? Cette brise qui vient des régions vers lesquelles je m'avance me donne un avant-goût de leur climat glacial. Vous venez d'écouter les premières lignes de Frankenstein, de Mary Shelley. Au programme aujourd'hui, légende, horreur et science-fiction. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 42. Classique parmi les classiques, tout le monde connaît le nom de Frankenstein et l'associe à un grand monstre vert, parfois un peu débile, un peu méchant, ou les deux. Pour ce dernier épisode de la deuxième saison de La Voix des Lettres, je vous propose de remonter à la naissance de cette créature légendaire. Comme vous l'avez entendu dans l'introduction, le roman s'ouvre sur la lettre qu'un jeune scientifique envoie à sa sœur. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Robert Walton prépare, depuis Saint-Pétersbourg, une expédition vers le pôle Nord pour éclaircir les mystères du champ magnétique terrestre. Il engage des matelots endurcis prêts à affronter la banquise et les icebergs et met le cap plein Nord. Alors qu'ils sont encore loin du but, leur navire est immobilisé par la glace. Ils scrutent l'horizon en attendant d'être libérés et aperçoivent au loin un traîneau tiré par des chiens et dirigé par un géant. Quelques heures plus tard, un iceberg dérive vers eux, avec à son bord un homme épuisé et fiévreux qu'il s'empresse de secourir. Pendant sa convalescence, Walton tient de longues discussions avec l'étranger et lui confie son ambition scientifique. Il n'en faut pas plus pour affoler le nouveau venu, qui met immédiatement en garde le capitaine. L'étranger m'a dit hier « Vous pouvez constater aisément, capitaine Walton, que j'ai éprouvé de grands et incomparables malheurs. J'étais décidé, d'abord, à ensevelir à jamais le souvenir de ces mots, mais vous avez changé ma résolution. Vous êtes en quête du savoir et de la sagesse. Je l'ai été aussi. Je souhaite ardemment que l'accomplissement de vos désirs ne devienne pas pour vous, comme ce le fut pour moi, un poison venimeux. J'ignore si la relation de mes déboires pourrait vous être utile. Cependant, lorsque je songe que vous êtes en train de suivre l'itinéraire que j'ai déjà suivi et que vous vous exposez à certains périls qui ne me furent pas épargnés, j'imagine que vous serez en mesure de tirer une morale de mon histoire. Elle sera profitable si vous réussissez. En cas d'échec, ce sera pour vous une consolation. Préparez-vous à entendre des faits qu'on a l'habitude de qualifier de merveilleux. Si nous nous étions trouvés dans un décor moins imposant, j'aurais eu peur de ne pas être cru, peut-être de vous paraître ridicule. Mais beaucoup de choses paraîtront possibles dans ces régions sauvages et mystérieuses, même si elles devraient faire rire ceux qui ignorent les innombrables pouvoirs de la nature. Mais je ne doute pas que mon histoire ne porte avec elle l'évidence de la vérité des événements qui la composent. L'étranger, qui n'est autre que Victor Frankenstein, commence alors le récit de sa vie et de ses ambitions de jeunesse. Issu d'une famille aisée et assez nombreuse installée à Genève, il s'intéresse à la philosophie naturelle et, par contradiction envers son père, se passionne pour l'alchimie et la pierre philosophale. Pour parfaire ses études, il se rend dans le sud de l'Allemagne, à Ingolstadt. Il rencontre un premier professeur qui se moque de ses acquis, lui expliquant que depuis le siècle des Lumières, les travaux des alchimistes sont dépassés, et que la chimie moderne ne cherche pas à changer le plomb en or ou à donner la vie éternelle. Victor rentre chez lui blessé dans son orgueil et se rend le lendemain au cours de M. Waldman, un autre professeur. C'est grâce aux zèles infatigables de ces hommes, me dit-il, que les savants d'aujourd'hui doivent les fondements de leurs connaissances. C'est par leur tâche que la nôtre a été facilitée. Établir une nomenclature et la classification adéquate des faits qu'ils ont pour une large part mise en évidence. les travaux de ces hommes de génie, même entrepris dans de fausses directions, ont en fin de compte été nettement bénéfiques. J'écoutais cet exposé fait sans présomption ni affectation, avant de lui avouer que son cours avait dissipé mes a priori envers les chimistes modernes. Je m'exprimais en des termes mesurés, avec la modestie et la déférence dues par un jeune homme à l'égard de son maître, sans laisser apparaître l'enthousiasme que j'avais pour aborder mes travaux futurs, ennuyé de devoir lui avouer mon inexpérience de la vie. Puis je lui demandais son avis au sujet des livres que j'avais à me procurer. « Je suis ravi, me dit M. Waldman, de m'être fait un élève, et si votre application égale votre habileté, je ne doute pas de votre succès. » La chimie est la branche des sciences naturelles dans laquelle on a fait et pourra faire le plus de progrès. Je m'y suis consacré entièrement, mais je n'ai pas non plus négligé les autres branches. On serait un bien médiocre chimiste si on ne s'adonnait qu'à cette seule partie des connaissances humaines. Si vous êtes animé du désir de devenir un vrai savant, et non seulement un faiseur d'expériences, je vous engage à étudier tous les secteurs des sciences naturelles, y compris les mathématiques. Il m'introduisit alors dans son laboratoire et m'y expliqua l'usage des différents instruments. Il me désigna tous ceux que je devais me procurer et me promit aussi de me prêter les siens dès que j'aurais assez d'expérience pour ne pas en détériorer les mécanismes. Il me fournit la liste des livres que je lui avais réclamés et je pris congé de lui. Ainsi s'acheva ce jour mémorable qui devait décider de mon avenir. Il n'en faut pas plus pour lancer la carrière du jeune Victor Frankenstein, qui s'avérera être un étudiant hors pair et un savant brillant, dépassant rapidement ses maîtres. À force d'études et d'expériences, il découvre le moyen d'insuffler la vie à un corps inanimé. Il se lance alors corps et âme dans un projet insensé, celui de créer de toutes pièces une créature à forme humaine. C'est l'occasion de rappeler que Frankenstein n'est pas le nom du monstre, mais bien celui de son créateur. Laissons pour un moment le récit et jetons un œil sur sa genèse, très romanesque elle aussi. Mary Godwin naît à Londres en 1797. Sa mère, philosophe féministe, meurt 10 jours plus tard. Son père, écrivain politique, se remarie 4 ans plus tard et offre à sa fille une éducation riche et libérale, notamment en philosophie, ce qui est assez rare pour une jeune fille à l'époque. À 16 ans, elle se lie avec un poète, Percy Shelley, qu'elle épousera 2 ans plus tard, prenant le nom sous lequel elle est aujourd'hui connue, Mary Shelley. Percy étant déjà marié au moment de leur rencontre, les amants fuient à travers l'Europe, avec la demi-sœur de Mary, Claire Clermont, elle aussi amoureuse d'un poète marié à la vie dissolue, le célèbre Lord Byron. En 1816, ces 4 joyeux lurons retrouvent un ami sur les bords du lac Léman, près de Genève, où ils prévoient de passer l'été entre lecture, conversation et randonnée. Pas de chance pour le club des 5, il pleut à longueur de temps, et 1816 est depuis connu comme l'année sans été, à cause d'une éruption volcanique qui a bouleversé le climat pendant plus d'un an. Pour s'occuper, les 5 amis se racontent des histoires de fantômes et Lord Byron lance à chacun le défi d'écrire son propre récit fantastique. Il commence lui-même un brouillon et donne vie à la première histoire de vampire, 80 ans avant la création de Dracula. Les 3 autres abandonnent et il ne reste en lice que Mary Shelley, qui après de longues discussions sur Darwin et ayant absorbé de l'opium, fait un cauchemar où apparaît un pâle étudiant des arts profanes agenouillé aux côtés de la chose qu'il avait assemblée. Elle s'inspire de sa vision pour écrire une nouvelle que Percy Shelley l'encourage à développer en roman. 2 ans plus tard, en 1818, Mary Shelley publie Frankenstein ou le Prométhée moderne. L'œuvre, présentée comme un roman gothique, trouve immédiatement ses lecteurs et connaît un franc succès. Aujourd'hui, on considère que Frankenstein est le premier roman de science-fiction, un demi-siècle avant les œuvres de Jules Verne ou de Wells. Ce nouveau genre se démarque du fantastique et du merveilleux par l'explication scientifique des événements, ce qui est explicitement revendiqué dans l'avant-propos de Mary Shelley. Le fait sur lequel est fondé ce récit imaginaire a été considéré par le docteur Darwin et par quelques auteurs physiologistes allemands comme n'appartenant nullement au domaine de l'impossible. Je ne voudrais pas que l'on me suspecte le moins du monde d'accorder à une telle hypothèse une adhésion sans restriction. Néanmoins, en échafaudant ma narration sur ce point de départ, je considère ne pas avoir créé un enchaînement de faits terrifiants relevant foncièrement du surnaturel. Si vous êtes fan de thriller, le genre littéraire, pas le tube de Michael Jackson, et que vous vous demandez s'il faut lire Frankenstein, la réponse est probablement non. Le suspense y est volontairement inexistant et l'enchaînement des événements pourra paraître fade et peu crédible au lecteur moderne. C'est que l'accent est porté sur la dimension philosophique, notamment sur la responsabilité du créateur et sur l'importance de l'éducation. On trouve dans le récit de nombreuses références, d'abord au mythe de Prométhée, dès le titre, puis aux thèses philosophiques de John Locke ou de Jean-Jacques Rousseau. La structure narrative est aussi particulièrement soignée, avec trois récits imbriqués, les lettres du capitaine Walton à sa sœur, l'histoire de Victor Frankenstein et, à l'intérieur de celle-ci, le récit de sa créature. Bref, un roman à mettre dans votre bibliothèque pour étaler votre culture, mais pas forcément à lire, ou alors pour son intérêt historique. Sur ce, il est plus que temps de conclure l'épisode, d'autant que j'entends du bruit dans le laboratoire d'à côté. Ce fut par une sinistre nuit de novembre que je parvins à mettre un terme à mes travaux. Avec une anxiété qui me rapprochait de l'agonie, je rassemblais autour de moi les instruments qui devaient donner la vie et introduire une étincelle d'existence dans cette manière inerte qui gisait à mes pieds. Il était 1h du matin et la pluie frappait lugubrement contre les vitres. Ma bougie allait s'éteindre lorsque tout à coup, au milieu de cette lumière vacillante, je vis s'ouvrir l'œil jaune stupide de la créature. Elle se mit à respirer et des mouvements convulsifs lui agitèrent les membres. Comment pourrais-je décrire mon émoi devant un tel prodige? Comment pourrais-je dépeindre cet être horrible dont la création m'avait coûté tant de peine et tant de soins? Ses membres étaient proportionnés et les traits que je lui avais choisis avaient quelque beauté. Quelque beauté, grand Dieu! Sa peau jaunâtre, tendue à l'extrême, dissimulait à peine ses muscles et ses artères. Sa longue chevelure était d'un noir brillant et ses dents d'une blancheur de nacre. Mais ses avantages ne formaient qu'un contraste plus monstrueux avec ses yeux stupides, dont la couleur semblait presque la même que celle, blême, des orbites. Il avait la peau ridée et les lèvres noires et minces. Les avatars multiples de l'existence ne sont pas aussi variables que les sentiments humains. J'avais, pendant 2 ans, travaillé sans répit pour donner la vie à un corps inanimé. Et pour cela, j'avais négligé mon repos et ma santé. Ce but, j'avais cherché à l'atteindre avec une ardeur immodérée. Mais maintenant que j'y étais parvenu, la beauté de mon rêve s'évanouissait et j'avais le cœur rempli d'épouvante et de dégoût. Incapable de supporter la vue de l'être que j'avais créé, je sortis de mon laboratoire et longtemps je tournais en rond dans ma chambre à coucher, sans trouver le sommeil. Enfin, la fatigue l'emporta et je me jetai tout habillé sur mon lit pour chercher, quelque temps, l'oubli de ma situation. En vain. Je dormis sans doute, mais ce fut pour être assailli par les rêves les plus terribles. Je crus voir Elisabeth, débordante de santé, se promener dans les rues d'Ingolstadt. Charmé et surpris, je l'enlaçais, mais alors que je posais mes lèvres sur les siennes, elle devint livide comme la mort. Ses traits se décomposèrent et j'eus l'impression que je tenais entre mes bras le cadavre de ma mère. Un linceul l'enveloppait et, à travers les plis, je vis grouiller les vers de la tombe. Je me réveillais avec horreur. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode qui clôture la 2e saison de La Voix des Lettres. En attendant la suivante, je vous invite à découvrir les autres épisodes et à les partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à envoyer vos suggestions pour la saison 3 sur la page Facebook ou Instagram, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de La Voix des Lettres.